Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Êtes-vous amoureux? Drôle de question, peut-être. Mais mon sujet d'aujourd'hui a fort à faire avec notre perception et notre conception de la tendresse, de l'affection et la ligne de vie chrétienne. En cette période de l'année, je doute fort qu'il y ait une seule personne parmi vous qui m'écoutez qui ne sache pas ce qu'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, dans de nombreux pays, est la fête des amoureux. Et on la célébrera un peu partout dans quelques jours. D'où ma question initiale. Êtes-vous amoureux? En pensant à cette fête mondaine, populaire, en l'honneur d'un prétendu saint, et que beaucoup de gens s'apprêtent à célébrer, je n'ai pu m'empêcher de penser à un verset biblique, qui est loin d'être évoqué dans la célébration de cette fête aux origines païennes. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3 et le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fallait pour faire une telle chose être très amoureux. Il fallait que Dieu nous aime infiniment. Il est cependant fort peu probable que les amoureux, le 14 février, pense à ce passage et pense à l'amour vrai avec cette optique. Rien de mal à être amoureux, certes. L'amour est le trait majeur de la famille divine. Dieu a placé et place en nous cette qualité merveilleuse. L'amour vient de Dieu. Cependant, Dieu éprouve pour nous un amour plutôt unilatéral, n'est-ce pas ? Rarement partagé. Et s'il y a réciprocité, c'est que 1 Jean chapitre 4 et le verset 10. S'il y a, je disais, réciprocité, c'est que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a, en premier, pourrait-on dire, aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Il doit y avoir réciprocité. Cet amour doit être partagé, ne pas être unilatéral. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit, ce qui est un élément clé et un commun dénominateur dans cette équation. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui, en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Il est amoureux de nous. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Autrement dit, cet amour est réciproque. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Autrement dit, nous sommes différents. Nous sommes dans ce monde tel qu'il est. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Il place son amour parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car nous avons la foi. Nous avons une relation étroite avec notre Père céleste et avec Christ. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et incidemment, maintenant, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il est l'auteur de l'amour. Il est la personnification, pourrait-on dire, de l'amour. Il est l'essence même du véritable amour. Il en est le summum, l'apothéose. L'amour humain, bien qu'imparfait et à un niveau nettement inférieur à l'amour divin, est malgré tout un type de l'amour divin et est issu de l'amour divin. L'idée de fêter l'amour ou de célébrer l'amour existant entre deux êtres humains de sexe opposé n'est pas une mauvaise idée en soi, mais tout chrétien digne de ce nom cherche à plaire à Dieu et non à pratiquer ce qui est populaire et égare les esprits, n'est-ce pas? Et je parle à des gens convertis. Il s'agit donc pour nous de savoir si nous préférons plonger nos regards dans ce que font les païens et les imiter, ou si nous préférons plonger nos regards dans la voie divine. Pour nous autres chrétiens, la fête des amoureux, c'est la Pâque, fête divine charnière qui évoque le sacrifice expiatoire du Christ Dieu, qui évoque l'amour ultime, l'amour dans sa forme la plus pure. Christ est mort pour nous, par amour. Son amour l'a tué. L'amour a causé la mort de l'un des deux membres de la famille divine. C'est un amour divin, un amour parfait. Or, que dire de la Saint-Valentin? Tout le monde sait et pense que l'amour est une bonne chose. Même les pires crapules peuvent être ou tomber amoureux. Et puis, ne dit-on pas souvent qu'il vaut mieux faire l'amour que la guerre? Comme si l'amour était synonyme de relation sexuelle? Pour Dieu et pour tout chrétien, l'amour est avant tout une attitude. La Saint-Valentin, le 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Et les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Et rien de mal à cela. Mais l'origine de la Saint-Valentin mérite notre attention. Et nous devons nous demander si son observance est chrétienne. N'évoque-t-elle pas un saint, saint S-A-I-N-T, qui plus est un saint de l'Église catholique? Nous savons que, d'après la Bible, un saint, S-A-I-N-T, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait ou qui est monté au ciel, mais simplement un vrai chrétien. Nous savons pertinemment que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est ce que dit l'Écriture, c'est ce qui est écrit dans Jean 3, 13. Et plusieurs passages de l'Écriture indiquent clairement qu'une fois mort, nous attendons inconscients dans nos sépulcres, la résurrection dont a parlé Paul dans 1 Corinthiens 15. Il n'y a aucun saint au ciel. De même que nous n'avons pas une âme immortelle. Quand nous sommes morts, nous sommes bel et bien morts, détruits, poussière, n'ayant plus conscience de rien. Ecclésiaste 9, versets 5 et verset 10, et psaume 6, versets 4 et 5, entre autres. Ce qu'il faut noter, c'est que le 14 février correspond, dans la religion romaine, au Lupercal, fête faunesque ou du dieu païen Faunus, se déroulant entre le 13 et le 15 février. Est-ce un pur hasard? Qui a bien pu l'inspirer? Je vous laisse le soin de le déterminer. Tout ce que je puis dire, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Incidemment, les Lupercales dans la Rome antique étaient des fêtes annuelles plutôt paillardes, célébrées par les Luperques, prêtres païens du faux dieu Faunus, dieu de la forêt et des troupeaux, représentés par un bouc. Et elles étaient observées du 13 au 15 février près d'une grotte nommée le Lupercale, située au pied du mont Palatin où, selon la légende, la louve aurait allaité Rémus et Romulus, les deux prétendus fondateurs de Rome. Bon, cela devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille. Dans la Rome antique, dans la Rome antique, le 15 février était donc fêté les Lupercales, ou festival de Faunus, le dieu de la fécondité, appelé Lupercus car il éloignait les loups. Il éloignait les loups. Et les Luperques, prêtres du Lupercus, sacrifiaient des chèvres au dieu Faunus. Avec le couteau sanglant ayant servi au sacrifice, les prêtres touchaient le front de deux jeunes patriciens, un garçon et une fille. Un bouc était ensuite sacrifié et de sa peau étaient fabriquées des lanières. Les Luperques, semblables à une troupe de faunes, couraient tout nus autour du Palatin en frappant avec les lanières les femmes qui se mettaient sur leur passage pour recevoir le don de la fertilité conformément à l'oracle de Junon. Junon, la plus importante des déesses de Rome, reine des dieux, au caractère guerrier marqué, porteuse de richesses, président à la monnaie, sœur et épouse de Jupiter, protectrice du mariage et de la maternité. Chez les païens. La fête des Lupercales était aussi une fête païenne de purification. En début d'année, les Luperques dans cette fête étaient des figurants, des prétendus esprits de la nature dont Faunus était le dieu principal. Il s'agissait d'un rite très ancien attribué au roi légendaire Évandre, vivant supposément au XIIIe siècle avant notre ère, et qui aurait régné sur cette région d'Italie avant la fondation de Rome. La fête païenne des Lupercales était aussi une fête de passage ou d'initiation. Le sacrifice dans la grotte du Lupercale était, dit-on, symbolique de la mort. Le rire aux éclats qui survenait après la purification, il fallait rire aux éclats. Ce rire aux éclats symbolisait apparemment le retour du souffle vital et donc une sorte de résurrection. Le bouc, symbole de la fécondité associé à Faunus, était, selon le poète romain Ovide, lié à la protection des troupeaux. Le chrétien averti remarque aussitôt dans tout cela plusieurs contrefaçons sataniques de la vérité. Quelques siècles plus tard, Charles d'Orléans, qui vécut de 1394 à 1465, duc d'Orléans et de Valois, fils de Louis Ier, duc d'Orléans, le frère du roi de France Charles VI, père du roi de France Louis XII, Charles d'Orléans est connu surtout pour ses œuvres poétiques, écrites lors de sa longue captivité anglaise. Charles d'Orléans est l'un des acteurs de la guerre de Cent Ans, qui opposa de 1337 à 1453 la dynastie anglaise des Plantagenets à celle des Valois de France, à travers le royaume de France et celui d'Angleterre. Et Charles d'Orléans fait souvent allusion dans ses écrits à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment. Selon le comte d'Argenson, qui vécut de 1652 à 1721, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux, en souvenir de la cour d'amour, comme il l'appelait, la cour d'amour que tenait chez elle sa mère, Valentine Visconti. Je doute fort qu'il se soit agi d'une cour d'amour au sens biblique. Seulement pour des couples légitimes, j'en doute fort. Quelques siècles plus tôt, au IIIe siècle, Valentin de Terni, ou Valentin de Rome, prêtre puis évêque, avait été martyrisé sous l'empereur Claude. En 495, le pape Gélase Ier avait décidé d'en finir avec la licence de la fête païenne des Lupercales, célébrée du 13 au 15 février, et avait décidé de la remplacer par la fête du 14 février, en l'honneur supposément de trois saints catholiques, saints S-A-I-N-T-S, catholiques martyrs, appelés Valentin, ils s'appelaient tous les trois Valentin, dont Valentin de Terni. Où était Dieu dans tout cela? Les premières traces de coutumes galantes associées à la fête courtoise de la Saint-Valentin, se déroulant le 14 février, datent du XIVe siècle en Angleterre. C'est les premières traces qui datent de cette date où naît la coutume de l'échange de cartes et de billets doux entre le Valentin et sa Valentine. Le titre de patron des amoureux est attribué à Saint Valentin en 1496 par le pape Alexandre VI. En 1969, incidemment, la Saint-Valentin allait en fait être rayée du calendrier liturgique romain par le pape Paul VI, mais elle est conservée dans les calendriers régionaux. Au XXe et XXIe siècle, la Saint-Valentin demeure une fête commerciale, fort lucrative, dans laquelle Dieu n'a aucune place, et qui a de forts accents païens. Incidemment, au XVIIe siècle, Shakespeare, dans Hamlet, fait chanter à Orphélie les mots suivants repris par Victor Hugo, et je cite « Bonjour, c'est la Saint-Valentin. Tous sont levés de grand matin. Me voici, Vierge, à votre fenêtre, pour être votre Valentine. » Alors il se leva et mit ses habits et ouvrit la porte de sa chambre. Et vierge, elle y entra. Et puis, jamais vierge, elle n'en sortit. Bon, ces paroles évoquent bien l'état d'esprit de la Saint-Valentin, plutôt libertineuse. Encore davantage de nos jours où tout semble permis. Où la fornication, l'adultère et l'infidélité foisonnent. La fête est maintenant associée plus étroitement à l'échange mutuel de billets doux, ou de Valentin, illustré de symboles tels qu'un cœur ou un cupidon ailé. Mais à nouveau, où est Dieu dans tout cela? Sous le masque du Saint-Valentin, ne serait-ce pas plutôt Eros, Cupidon, qui se cache? Cupidon, le dieu de l'amour des Romains, correspond au dieu grec Eros. Cupidon est représenté sous les traits d'un enfant ailé qui personnifie l'amour, c'est-à-dire supposément l'union de l'homme et de la femme. On simplifie rarement, généralement ces choses. Et Cupidon est toujours accompagné de son arc, de son carquois et de ses flèches. Il tire sur celui qu'il veut rendre fou d'amour. Cupidon vient du mot latin cupido, terme poétique désignant le désir, l'envie. Cupidon, c'est le désir amoureux personnifié. Le mot cupidon vient de cupérer, désirer, d'où cupidus, désireux, passionné, cupiditas, désir, envie. C'est du moins ce que l'on peut lire avec quelques variations mineures dans les articles consacrés à ces sujets en ligne ou dans des livres. Je doute fort que Cupidon évoque un désir légitime est sain. Saint, S-A-I-N, dans ce sens. Ou une envie légitime et chrétienne, je pense qu'il s'agit plutôt du désir et de l'envie basée sur la convoitise. La Saint-Valentin est la fête des amoureux, mais pas des amoureux chrétiens. Dieu, pourtant, le plus merveilleux des amoureux, n'y occupe pas la moindre place et n'y est même pas évoqué. Il s'agit donc pour nous de savoir si nous préférons plonger nos regards dans ce que font les païens et les imiter, ou si nous préférons plonger nos regards dans la voie divine. Je répète, il s'agit donc pour nous de savoir si nous préférons plonger nos regards dans ce que font les païens et les imiter, ou si nous préférons plonger nos regards dans la voie divine. À l'envoi de billets au XIXe siècle a succédé l'échange de cartes de vœux. En France, le dessinateur Raymond Penet a longtemps été l'auteur d'illustrations emblématiques des couples d'amoureux dans les revues comme Paris Match, si mes souvenirs sont exacts. Je me souviens avoir vu ces petites images quand j'étais plus jeune. À Strasbourg, un événement est dédié à la fête des amoureux, Strasbourg mon amour. Ainsi qu'à Nancy, Nancy, l'amour au cœur. En France, les fleuristes font, en ce jour de la Saint-Valentin, le chiffre d'affaires qu'ils feraient habituellement en une semaine. La vente des roses représente 80% des ventes. La Saint-Valentin s'est popularisée également en Inde et au Pakistan, provoquant l'hostilité de certains groupes opposés à cette influence occidentale. Intéressant. En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, la Qixi, Saint-Valentin chinoise, tenue le septième jour de la septième lune. Depuis les années 1980, la Saint-Valentin du 14 février connaît une popularité importante, notamment chez les jeunes qui génèrent diverses activités commerciales. Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 1950. C'est une fête commerciale où, le 14 février de chaque année, les femmes offrent des chocolats aux hommes. Elles en offrent à l'être aimé, on parle alors de Onmei Shoko. Pour ces prononciations chinoises ou japonaises, veuillez m'excuser, mais je ne connais pas ces langues, donc il est possible que je ne prononce pas comme il faut, mais ce n'est pas important. Mais les femmes en offrent aussi par courtoisie à leurs collègues, ce chocolat, leurs collègues de travail masculin, leurs patrons ou encore leur famille. On parle alors de Jirishoko. Dans un deuxième temps, les hommes qui ont reçu des Onmei Shoko ont l'occasion d'offrir aux femmes en cadeau de retour du chocolat lors du White Day, célébré le 14 mars. Et en guise de présent, les femmes reçoivent du chocolat blanc, des bijoux, de la lingerie de couleur blanche. L'absence de cadeau en retour doit être considérée comme le signe d'un amour unilatéral ou non partagé. Ce concept lancé au Japon s'est étendu à la Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong. En Algérie, la Saint-Valentin, Eid el-Oub, fêtée le 14 février, est plus populaire chez les jeunes. Les couples s'offrent ce jour-là des roses et du chocolat, et plus rarement d'autres cadeaux. Dans les écoles, on parle aussi d'élèves qui offrent des roses à leur maîtresse. Au Liban, ce jour-là, les amoureux s'offrent des chocolats, des gâteaux, des roses et d'autres cadeaux symbolisant l'amour. Les lycées et collèges organisent pour la Saint-Valentin le Red Day, où les élèves viennent habillés en rouge pour porter l'uniforme scolaire, ou sans porter ce jour-là plutôt l'uniforme scolaire, et où il y a vente de gâteaux, de chocolat et des échanges de câlins et de cadeaux. En Tunisie, la Saint-Valentin, appelée Eid el-Hub, la fête de l'amour, est très populaire. Les couples profitent de ce jour pour s'offrir des cadeaux et organiser des sorties romantiques, romantiques dans un seul mot cette fois-ci, ou des repas en tête-à-tête. en Catalogne, on trouve la Sant Jordi le 23 avril, lors de laquelle les hommes offrent une rose aux femmes et les femmes un livre aux hommes. Au Brésil, on ne parle pas de la Saint-Valentin, mais de Dias dos Namorados, jour des amoureux, fêté le 12 juin. Dans de nombreux pays d'Amérique latine, hispanophones, comme la Bolivie, la Colombie et le Pérou, la fête s'appelle Día del Amor y Amistad, jour de l'amour et de l'amitié. Au Mexique, la fête est également officiellement utilisée comme une journée en mémoire du chanteur Valentin Elizalde. En Bolivie, la fête se tient le 21 septembre, début du printemps dans l'hémisphère austral, la date du 14 février correspondant à l'attaque chilienne de 1879 et l'occupation du port d'Antofagasta à l'issue de la guerre du Pacifique. En Colombie, l'équivalent de la Saint-Valentin est fêté le troisième samedi du mois de septembre. En Iran, c'est Pandamagdan, excusez la prononciation encore, ou Efzandegan, est un festival où les gens expriment l'amour envers leur mère et leurs épouses, et c'est aussi une célébration de la terre dans la culture perse antique. En Israël, Tu Be'av est un jour dont la signification peut se rapprocher de la Saint-Valentin. Il est fêté au mois de juillet ou d'août, date grégorienne changeant suivant le calendrier hébraïque. Au pays de Galles, on fête également la Sainte Dwynwen, Dwynwen, le 5 janvier. Et on pourrait continuer comme ça, mais c'est partout, partout on fête les amoureux, n'est-ce pas? Êtes-vous amoureux? Je repose ma question. La Bible décrit l'amour que devraient partager les vrais amoureux. Mais à l'heure où le monde célèbre sa ou ses versions de l'amour, il est utile de nous poser la question de savoir si nous sommes de vrais amoureux spirituels. Ne sommes-nous pas supposés, nous autres chrétiens, en tant que la fiancée de Christ et sa future épouse, être, si je puis dire, follement amoureux de notre Sauveur? Et j'emploie le mot follement ici comme on le comprend généralement. Il ne s'agit pas de folie ici, mais d'intensité. Quand on est fou amoureux, ça veut dire qu'on est, on est animé d'un amour très profond. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on est fou. Vous savez cela. 1 Jean chapitre 5, verset 1. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Nous étions dans 1 Jean, je pense, pour notre dernier passage. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est comme cela que nous prouvons à Dieu que nous l'aimons, nous gardons ses commandements. Ce n'est pas ce qu'enseigne le christianisme traditionnel, ce n'est pas ce qu'enseigne la plupart des églises dites chrétiennes. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pour beaucoup, il semble que c'est pénible, mais pas pour le vrai chrétien, pas pour vous et moi. La Saint-Valentin ne met pas l'accent sur les caractéristiques de l'amour vrai, de l'amour divin. À quoi nous attachons-nous? À quoi attachons-nous de l'importance? Ce que le monde a à offrir nous attire-t-il encore? Revenons sur la définition divine de l'amour. Quel genre d'amoureux chrétiens sommes-nous? Que nous soyons amoureux au niveau humain ou amoureux de Dieu, cet amour doit être ce que Paul a bien décrit, a si bien décrit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 4 pour commencer. L'amour est patient. Voilà une définition de l'amour. L'amour est patient. Est-ce qu'on parle de patience lors de la Saint-Valentin? Il est plein de bonté. Est-ce qu'on parle de cette bonté lors de la Saint-Valentin? L'amour n'est point envieux. Ah, nous parlions d'envie aussi, la mauvaise sorte d'envie. Bon, il n'y a aucun mal à avoir envie de quelque chose, mais quand cette envie est trop poussée, ça devient un péché. Et lorsqu'il est question de cette envie que des supposés amoureux ont, cette envie n'est généralement pas très légitime. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Et je suis sûr que dans bien des cas, ces amoureux, il y a quelque chose de malhonnête dans ce que l'un et l'autre font. Il ne cherche point son intérêt. Le véritable amour ne cherche pas son propre plaisir. Il cherche à donner, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il y a la confiance entre les vrais amoureux. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Quelle dose de vérité y a-t-il dans la Saint-Valentin? Il excuse tout. Il croit tout. Essayez de dire aux amoureux d'aujourd'hui, excusez tout, croyez tout, espérez tout, supportez tout. L'amour ne périt jamais. Mais voyez ici, il est question de l'amour divin, de la définition divine de l'amour. Est-ce à cela que pensent les amoureux quand ils célèbrent la Saint-Valentin? Je répète qu'il s'agit pour nous de savoir si nous préférons plonger nos regards dans ce que font les païens et de les imiter, ou si nous préférons plonger nos regards dans la voie divine. Tout est là, n'est-ce pas? L'amour est le fruit du Saint-Esprit. Décrit-il nos relations entre membres et nos attitudes? Si nous avons le Saint-Esprit, qu'il est actif dans nos vies, nous portons certains fruits. Nous sommes beaucoup plus indulgents que nous l'étions avant notre conversion. Nous sommes beaucoup plus humbles. Nous passons plus de temps à nous entraider au lieu d'être en compétition les uns avec les autres. Nous ne sommes plus aussi agressifs. Nous ne sommes plus médisants, avons cessé de répandre des ragots et des médisances à faire du commérage. Nous ne cherchons plus à nous venger. Nous sommes beaucoup plus doux. Nous ne proférons plus de menaces. Nous sommes bien plus prompts à pardonner. Nous sommes devenus fidèles. Nous apprenons à chérir. Tout cela de la bonne manière. Nous ne mentons plus. Nous ne jouons plus les hypocrites. Nous respectons beaucoup plus notre prochain. Nous sommes plus paresseux, nous sommes devenus zélés. Nous ne tendons plus des pièges. Nous savons tenir notre place. Nous sommes devenus plus lents à donner notre opinion et bien plus disposés à écouter. Nous ne cherchons pas à prêcher aux autres, nous sommes plus conscients de nos propres faiblesses et de ce que nous devons changer en nous. Nous connaissons la différence entre l'amour réactionnel et émotionnel et l'amour volitionnel, l'amour de la volonté, celui qui choisit d'être ainsi, etc., 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 n'est-ce pas? L'amour est un choix. Célébrons-nous quotidiennement l'amour, pas seulement un jour chaque année, mais quotidiennement. Est-ce notre mode de vie? Nous identifie-t-il? Est-ce ce qui nous définit? 1 Jean chapitre 4, verset 7, 1 Jean chapitre 4 et le verset 7. Un Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jean parle ici des vrais amoureux. Au départ, l'amour, le vrai, est de Dieu. Et l'amour qui unit deux êtres humains doit être basé sur les valeurs divines. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Il y a beaucoup d'amoureux qui s'aiment et qui pourtant ne connaissent pas ou n'ont pas connu Dieu. Il y a deux sortes d'amour, l'amour humain et l'amour divin. L'amour humain n'est pas nécessairement de l'amour. L'amour divin est synonyme d'obéissance aux valeurs morales divines, aux lois divines. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu, mais au niveau humain, il y a deux dimensions. Puissions-nous comprendre cela. Verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vivons-nous par cet amour et vivons-nous par Christ? En nous appuyant sur Christ? Je doute fort que les amoureux qui célèbrent la Saint-Valentin pensent à ces choses. Quand ils s'embrassent et s'échangent des billets doux et expriment l'amour à leur façon. Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà comme ça, c'est comme cela qu'il a prouvé son amour. Romains 5, 8. L'amour, comme le résumait si bien Herbert Armstrong, est la voie qui consiste à donner. Quelle sorte d'amoureux sommes-nous au niveau humain? Sommes-nous amoureux de Dieu, de notre fiancé spirituel et de notre future épouse spirituelle? Il y a une dimension généralement inconnue à l'amour. Romains chapitre 13, verset 8. Romains chapitre 13 et le verset 8. Et cela, les églises dites chrétiennes de ce monde l'enseignent pas non plus et la Saint-Valentin ne l'enseigne pas davantage. Romains chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Waouh ! Paul ne parle pas nécessairement ici des couples, des gens mariés, mais des chrétiens entre eux. Et c'est vrai. Mais à la base, aimer, c'est pratiquer la voie qui consiste à donner. Cet amour ne s'appuie pas sur les désirs, sur ce que l'on voit ou reçoit, ou uniquement sur l'attraction physique ou sexuelle et même intellectuelle. Dieu nous rappelle, ou Paul plus exactement, nous rappelle également que nous devons agir avec amour. En vrais amoureux, pourrait-on dire. En vrais amoureux de Christ et de la voie divine. Il dit cela dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4 et le verset 1. Éphésiens chapitre 4 et le verset 1. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. Avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'amour est le fruit du Saint-Esprit. C'est un esprit qui nous unit véritablement. C'est lui qui nous motive et qui nous pousse à agir d'une manière bien précise. C'est là une dimension manquante dans ce monde qui a pour Dieu Satan, le Dieu de ce siècle, hein, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 4:4. Satan est le Dieu de ce siècle, pas Dieu. La Saint-Valentin ne prône rien de tout cela. Nous avons vu quelles sont ses origines, des origines nettement païennes et profanes. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu chapitre 5 et le verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était ce qui était prêché sous l'ancienne alliance. Mais moi, je vous dis, et Christ parle ici d'une nouvelle façon de penser, il parle du véritable amour. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que ça va faire une différence, ça va nous identifier, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains et les amoureux voient les choses ainsi. J'aime ce que je vois ou j'aime ce que tu me donnes. J'aime que tu m'aimes. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits ou mûrs comme votre Père céleste est parfait. Une autre bonne traduction serait mûr. Christ nous a dit de qui nous devons être amoureux. Marc chapitre 12, verset 28. Marc chapitre 12 et le verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Cela c'est de l'amour, cela c'est l'amour. Voici le second, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et ce second principe est aussi un principe clé pour les vrais amoureux qui doivent aimer l'autre comme eux-mêmes. Est-ce toujours le cas? À nouveau, il est facile d'aimer quand on reçoit beaucoup. Mais un vrai amoureux, c'est quelqu'un qui donne, qui pratique la voie qui consiste à donner. Et non pas qui prend son plaisir à recevoir. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'amoureux, comme on les appelle, sont des gens qui aiment ce qu'ils reçoivent. Ils sont amoureux de l'autre parce que, bon, l'autre est très joli, ou l'autre est musclé, ou l'autre a telle ou telle qualité, etc. Mais c'est ce qu'ils reçoivent. Ils sont amoureux souvent de ce qu'ils reçoivent. Je doute fort que les amoureux célébrant la Saint-Valentin pensent à ces choses que nous venons de lire. Dans la plupart des cas, ils ne sont même pas disposés à le faire. Jean nous rappelle aussi un principe important, 1 Jean 3, 18. 1 Jean chapitre 3 et le verset 18. Principe important aussi, à nouveau pour que nous ne soyons pas des hypocrites, mais de vrais chrétiens, de vrais amoureux. 1 Jean chapitre 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, c'est facile de dire des choses, c'est facile de s'exprimer d'une certaine façon. » Mais en action et avec vérité. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Il est facile de dire des mots gentils, mais est-ce que nous pratiquons ce que nous déclarons? Il y a un proverbe qui dit que la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10-12. J'aime la dernière partie de ce proverbe. L'amour couvre toutes les fautes. Cela évoque l'amour et la miséricorde de notre grand Dieu, sa grande tendresse et sa bonté à notre égard, son affection. Et Jean a aussi parlé de cet amour. Jean chapitre 15, verset 9. Jean chapitre 15 et le verset 9. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Cet amour doit être réciproque, pas unilatéral. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, pas n'importe comment, comme je vous ai aimé, avec le genre d'amour que j'ai eu pour vous, le genre d'amour que Christ a pour ses créatures, a pour nous. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La plupart des églises de ce monde ne prêchent pas cela. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous commande? Oh non, Christ a tout fait à notre place. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demandiez au Père ce que vous demanderez au Père en mon nom et il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il revient sur ce thème. Quel genre d'amoureux sommes-nous? Aimons-nous notre Père céleste et son Christ comme il se doit? Christ a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. La Saint-Valentin n'est pas pour les vrais amoureux. Du moins les vrais amoureux chrétiens. 1 Jean chapitre 3, verset 16. 1 Jean 3, 16. Beaucoup de passages dans 1 Jean, n'est-ce pas? Parce que Jean était l'apôtre de l'amour. Lui comprenait l'amour. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que nous sommes disposés à faire cela? Ce n'est pas facile. La Bible ne cesse de revenir sur cette dimension manquante, sublime, d'une autre dimension. C'est quelque chose d'une autre dimension. Ce n'est pas humain. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, profond, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ce que nous dit Pierre. Si nous avons effectivement été régénérés, non par une semence corruptible, mais une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, nous sommes de vrais amoureux. Et pour nous, l'amour va infiniment plus loin que ce que prône la fête païenne de la Saint-Valentin, qui ne nous apprend rien d'utile. Il n'y a rien de mal à fêter l'amour et les amoureux, mais pas de cette manière. Quand Christ a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » À nouveau, à sa manière, lui définit l'amour. Pas comme nous pensons devoir le faire, mais comme Christ nous a dit de le faire. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il nous indiquait comment être de vrais amoureux et comment aimer à sa façon. Comment Christ nous a-t-il aimé d'un amour divin qui est allé jusqu'au sacrifice, au mépris de sa vie? Ce qui est loin de nous enseigner la Saint-Valentin. Quand on connaît les origines de cette fête, il est difficile, quand on est chrétien, de souscrire à ce qu'elle prône. Qu'avons-nous en commun avec ce monde? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou Satan? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est point d'ici-bas. Nous appartenons à un royaume dont nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs. Et comme il l'a dit dans sa prière, le dernier Pâque avec ses disciples, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La Bible est la vérité. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul a écrit, je vous ai écrit dans ma lettre, de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement il faudrait sortir du monde. Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Que personne de vous ne se séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux et ne prenez point aux œuvres infructueuses, ne prenez donc point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'amour du monde est inimitié contre Dieu, donc celui qui veut être pas un ami du monde se rend ennemi de Dieu. Oh, si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, et à cause de cela, le monde vous hait, nous a dit Jésus. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je parle aux convertis, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple et qui maintenant sommes le peuple de Dieu. Que représente pour nous l'amour? Éprouvons-nous le vrai amour? Sommes-nous de vrais amoureux? Galates 5, 22. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais en premier, l'amour. La Saint-Valentin est loin de prôner que l'amour, le vrai, accomplit la loi divine. Or, pourtant, il est écrit, Romains chapitre 13, verset 10, Romains 13, 10, Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement ou la réalisation ou la concrétisation de la loi. Une fois de plus, dans quelle dimension sommes-nous? Quel est notre système de valeurs? Celui du monde ou celui de Dieu? Qui imitons-nous? Le monde ou les vrais serviteurs de l'Éternel au fil des siècles? 1 Pierre chapitre 4, verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Si vous aimez, beaucoup de vos péchés seront absous, seront pardonnés. Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Romains 12, 9. Car l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Est-ce que cela nous décrit entre membres, entre frères et sœurs, dans nos congrégations respectives? Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5 et le verset 5. Nous sommes dans Romains. Romains 5, 5. Et nous parlons à nouveau du vrai amour, de l'amour véritable. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, comment ? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est que le vrai amour. Mais si nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, qui est actif en nous, que nous utilisons, que nous faisons fructifier, nous comprenons ce que c'est que cet amour. Le Saint-Esprit nous l'a donné. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour. C'est Dieu qui nous donne cet amour. C'est comme cela que nous pouvons devenir des amoureux. En guise de conclusion, Proverbe 30, Proverbe 30, Proverbe chapitre 30, Proverbe 30, verset 18. Or, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, qui me dépassent, des choses que je ne peux pas concevoir, je ne peux pas comprendre, même quatre que je ne puis comprendre, c'est ce que disait Salomon. La trace de l'aigle dans les cieux. Comment est-ce que vous pouvez tracer la trajectoire de l'aigle dans les cieux ? La trace du serpent sur le rocher, même chose. La trace du navire au milieu de la mer, même chose. Et la trace de l'homme chez la jeune fille. Ça, c'est très poétique. La trace de l'homme chez la jeune fille. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, maintenant. Cantique des Cantiques, verset chapitre 8. Cantique des Cantiques. Apparemment, il s'agit de l'épouse. Songeons qu'il s'agit de l'épouse, la vraie épouse, l'épouse fidèle. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Quelle attitude devrions-nous adopter à l'égard de la Saint-Valentin? Il s'agit pour nous de savoir si nous préférons plonger nos regards dans ce que font les païens et les imiter, ou si nous préférons plonger nos regards dans le spirituel et dans la voie divine. Je répète, il s'agit pour nous de savoir si nous préférons plonger nos regards dans ce que font les païens et les imiter, ou si nous préférons plonger nos regards dans la voie divine. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, je vous souhaite bon courage, et je vous dis au revoir. Et à bientôt.